CFM Radio, bonsoir. Du Coq à l'âne, Frédéric Moreau. Ce soir, nous partons pour l'année 1970. Des petits cercles, de la musique, à tout de suite. C'est un peu une histoire de cercle. Non que je veuille absolument faire entrer cette année-là de force et à grands coups d'arguments dans une forme donnée, comme le ferait un singe non savant avec un cube dans un cylindre d'un jeu de bois, même si la quadrature du cercle n'est pas un mythe, si l'on veut bien se pencher sur la question. Une histoire qui peut tourner en rond donc, et compte tenu de l'infinité de cercles possibles, avec un centre unique, et quand on pense que chacun a un nombril autour duquel le monde peut tourner, ce sera une histoire de cercles, qui n'ont rien en commun, sinon de cercler l'année dite d'histoire propre. Ni vicieux ni vertueux, ils englobent mille rouages de cycles plus ou bien huilés, où la chance, le hasard et la vie tournent leur manivelle et roulent sur les pans de l'histoire. En 70, un frère et une sœur, les Carpenters, sortent leur premier album et chantent Close to You.
Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you, all around, just like.
En 1970, le programme Apollo a presque 10 ans depuis que le président JFK a défini l'objectif pour les États-Unis d'accéder à la Lune dans la décennie. Ce qui, à l'époque, constitue une vraie course à l'espace entre puissances. L'espace, nouvelle frontière. L'espace, dernier front stratégique. Après plusieurs missions non habitées et habitées, dont l'une voit la mort de 3 astronautes américains après que le feu a pris dans leur vaisseau, Apollo 12 se pose sur le sol lunaire en juillet 1969. Extraordinaire premier spectacle télévisé, suivi par le monde entier. En 1970, Apollo 13 suit le même chemin. Sera-ce le chiffre qui porte malheur? Les superstitieux y verront confirmation de leur croyance. Est-ce une préparation trop hâtive? Est-ce le fait du hasard simple? Quoi qu'il en soit, une avarie contraint l'équipage durant le vol à se réfugier dans le module lunaire, le vaisseau étant devenu inhabitable après l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Candy Stanton chante « Another Man's Woman, Another Woman's Man » en 1970. À tout de suite. Réservoir d'oxygène, donc. Rien d'étonnant lorsque l'on songe que la fusée de poussée se nomme Saturne. Saturne, le dieu du temps, le dieu froid qui mangeait ses enfants, et que Apollo, au nom du dieu de la poésie, il avait aux fesses le morphal glouton. Houston, we have a problem, annonce-t-il. À 3, recroquevillés dans un espace confiné et étroit, ils vont naviguer à l'aveuglette, à 300 000 km de la Terre, sans pouvoir faire demi-tour, et obligé de poursuivre le voyage vers la Lune. En contact avec la base, les 3 astronautes ont imaginé plusieurs stratagèmes, tous très complexes, pour reprendre le chemin du plancher des vaches et s'en sortir vivants. C'est pour finir en faisant le tour de l'astre froid, ils en ont vu la face cachée, les coquins, et en utilisant son attraction gravitationnelle, qu'ils réussissent à prendre la route du retour. Aidés par les équipes au sol, ils ont dû trouver un moyen de récupérer de l'énergie, d'économiser l'oxygène, d'éliminer le dioxyde de carbone et de réduire leur consommation en eau pour pouvoir survivre. Ces manques, ainsi que le froid, ont rendu le périple particulièrement pénible pour le trio. Au bout de 6 jours, le module échoue dans l'océan Pacifique. Pour une mission échec, mais 3 vies sauvées, après une jolie ronde dans l'espace. Presque une circumnavigation. Un pi à la puissance 2. En 1970, The Temptations, dont la première formation est en train d'exploser, lance Psychedelic Jack. Cercle. En 1970, sort Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Film policier où se trouvent confrontés Alain Delon, André Bourvil, Yves Montand, Gianmaria Volonté et François Perrier. L'histoire du casse d'un bijoutier de la place Vendôme par trois hommes au bout de leur chemin et auxquels s'oppose un commissaire solitaire et désabusé, joué par un Bourvil malade et en fin de vie. Si loin de ses personnages habituels de bonheur rural qu'il incarne à merveille, un rôle tout en distanciation et discrétion. Bourvil, le fils de Normand, orphelin de père mort de la grippe espagnole au terme de la Grande Guerre. Bourvil grandit à la ferme, destiné à des études d'instituteur, parti travailler à la ville et devenu sur le tard comique de chambrée au régiment. Bourvil gravissant petit à petit les échelons d'une carrière de chanteur-chansonnier où il fait d'abord fureur avec son personnage de paysan simple, puis très vite se lance dans l'opérette et dans le cinéma, dans une série de comédies souvent consternantes de facilité, qui furent le bonheur des Français dans les années 50 et le désespoir des tenants d'un cinéma créatif peu en vogue à l'époque. Il a toutefois la chance de jouer dans deux ou trois films qui lui permettent, un peu à l'instar de Coluche 20 ans plus tard, de montrer son talent réel. En 70, Barbara vole avec son aigle noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. Allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des réveils. Aigle noir dans un bruissement d'ailes, pourrit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac,
Yves Olivier. Le fils d'ouvrier italien engagé en un temps où l'Italie plisse le joug fasciste, puis réfugié à Marseille, travaille dès l'âge de 11 ans. Puis, devenu Yves Montand, il monte sur les planches du music hall à 17. La guerre l'arrête à rien alors que sa carrière se dessine dans le sud. Arrivé à Paris en 44, il rencontre la Môme Piaf, qui le lance comme elle en a lancé tant. Chanteur puis acteur, il devient une vedette à part entière. Ce sont les années 50 et 60. L'engagement avec Cineret qu'il épouse. L'engagement aveugle pour le communisme petit à petit érodé par la réalité qu'il découvre lors de tournées en Europe de l'Est. L'engagement à Hollywood et une liaison avec Marilyn sur le plateau du milliardaire de George Cukor. Puis un grand succès à Broadway, à Londres, à Tokyo. Les Yé des Boules, le grand Yves a vieilli. Il se consacre alors presque exclusivement au cinéma. Et en 1970, il tourne sous la férule de Melville, né Jean-Pierre Grumbach, dans une famille juive alsacienne installée à Paris, qui a fui la France occupée et qui rejoint la France libre sous le nom de Melville. Pendant les combats du Mont-Cassin, lors de la campagne d'Italie, il se fait la promesse de créer son propre studio et de s'adonner à sa passion cinématographique, s'il sort vivant de l'histoire. Un an avant la disparition de Jim Morrison et la fin de fête du groupe des Doors, sort l'album Morrison Hotel, dont voici le premier morceau, Roadhouse.
I'm
Libération, Melville adapte, malgré le refus de Vercors, son auteur, Le Silence de la mer, dont il fait un film précurseur de la nouvelle vague, 10 ans en avance. Mégalomane invétéré, coiffé d'un Stetson et composant un personnage hautain et empreint d'une Amérique imaginée et fantasmée, Melville dessine une cinématographie faite de rigueur et de classicisme, de grande intelligence et de maîtrise, où se suivent des films principalement d'aventure et des policiers, marqués par une nostalgie aussi belle et sombre que la rue Watt, qu'il affectionne tant et qui apparaît dans nombre de ses réalisations. Cette rue couverte sous les rails d'Austerlitz, où fuse d'une lumière au travers d'un canevas de fer et de béton, et dessine sur le bitume une mosaïque de carrés blancs, en rupture avec la garde montée des piliers en acier. Ses œuvres où son âge l'échec, la solitude et la mort, un cercle vertueux dont nul héros ne peut s'échapper, qu'il soit du côté du bien ou du mal. Melville a sa période Belmondo, 3 films ensemble, jusqu'au jour où sur le tournage de L'Aîné des Fers Chauds, odieux comme à son habitude avec les acteurs, il ne cesse de s'en prendre au vieux Charles Vanel, et Bébel, excédé, le frappe, l'envoyant valser, puis il saccage son chapeau et ses lunettes de soleil emblématiques, et le traite de crapaud. Suivront ensuite 2 films avec Lino Ventura, l'ancien catcheur qui finit à son tour par être dégoûté des incessantes critiques et mauvaises blagues du réalisateur. Enfin, c'est Delon pour 3 opus. Delon qui trouve en Melville un père spirituel, un maître qui le dirige comme jamais, comme dans Le Samouraï, où il joue un tueur professionnel aussi solitaire et décidé qu'il est silencieux et méthodique. Delon qui, dans Le Cercle Rouge, s'appelle Corret. Ce nom de Corret, comme Isabelle Corret, le nom de la jeune fille que Melville fit jouer dans Bob le Flambeur, une gamine de 15 ans, trouvée presque dans la rue. 3 siècles d'acteurs donc, 3 époques, des chefs-d'œuvre de tenue et de maîtrise, et comme dit le sage, le Bouddha se saisit d'un morceau de craie rouge, trace un cercle et dit « Quand les hommes, même s'ils s'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux, et ils peuvent suivre des chemins divergents. Au jour dit, inexorablement, ils seront réunis dans le cercle rouge. » La musique du film est d'Éric de Marsan. André Humer est à la batterie, Bernard Luba au vibraphone. Mishima. Yukio Mishima, né Kimitake Hiraoka. Le toujours petit garçon arraché à sa mère et élevé par une grand-mère, certes cultivé et d'ascendance samouraï, mais d'une noirceur mortifère. Mishima, surprotégé et solitaire, qui retrouve sa mère à 12 ans et lui voue dès lors un amour infini. Mishima, le précoce amoureux des lettres et de la littérature. Mishima donc, qui le 25 novembre 1970, se cercle la tête d'un bandeau et s'ouvre le ventre. Confronté à un père autoritaire et très violent, il écrit dès l'âge de 12 ans sa première histoire. Il évite ensuite la conscription à la fin de la guerre mondiale et à l'heure où Thor meurt, à son âge, il survit à une génération sacrifiée dans la défense suicidaire d'un empire couchant. Et malgré le soulagement d'avoir échappé à une mort presque certaine, il s'en veut dès lors. Et ce, toute sa vie. D'être un survivant et de n'être pas mort en héros. Sa mort est dès cet instant programmée. Épris d'Oscar Wilde, il publie son premier roman à succès en 1949, à peine 24 ans. Confession d'un masque, où se révèle son homosexualité cachée. Le masque ne tombe pas, mais il n'aura dès lors de cesse d'entretenir son corps pour échapper aux assauts du temps et de pratiquer le kendo, cet art martial du sabre où l'esprit s'aiguise et se tend. Il se lance dans une carrière littéraire sans égale dans ce Japon post-war sous contrôle américain et fréquente le cercle de la revue Littérature moderne. Malgré ses séjours en Europe et son goût pour les costumes occidentaux, il se tourne vers ses racines et développe une attraction sans faille pour le patriotisme impérial, jusqu'à former dans l'esprit ancestral du Bushido, le code d'honneur samouraï, une armée d'une centaine de jeunes dévoués à cette cause. Son homosexualité le pousse à fréquenter les cercles homo de Tokyo et ceux des villes européennes qu'il visite lors de ses voyages nombreux et fréquents. Malgré cela, il se marie et a deux enfants. En janvier 70, les Beatles enregistrent un dernier morceau. John Lennon est déjà absent. Le cercle carré se disloque. En avril, McCartney sort un premier album solo et annonce qu'il ne fait plus partie du groupe pour des différends d'ordre personnel et financier. Le secret de Polichinelle est percé. Les quatre de Liverpool ne sont plus unis depuis longtemps déjà et la fin a un goût saumâtre pour des millions de fans qui y croyaient encore. Let It Be, le dernier album, sort quelques semaines plus tard. Ouf, enfin, les Beatles ne chanteront plus. Mais, en revanche, Paul McCartney, lui, si. Le prix à payer est toujours très cher. En 1970, Ananda Shankar sort une version à rien orientale de Jumping Jack Flash des Stones. Eux, ils chantent toujours, fort heureusement. Ha ha ha! Fou du corps masculin, Mishima pose pour de nombreuses photos dont ne rougirait pas Pierre et Gilles. Jusqu'à se métamorphoser en Saint-Sébastien Nippon. Saint-Sébastien, si souvent représenté par les peintres renaissants, un jeune et faible transpercé de flèches. Le saint gay, si l'on osait. Le symbole d'une beauté masculine expiant sa sexualité et percée de dards mortels. Saint-Sébastien, figure emblématique que Rény brossa si souvent et qu'exalte Mishima. Le 25 novembre 1970, donc, il envoie à son éditeur le dernier manuscrit de son grand œuvre, la tétralogie « La mère de la fertilité », et s'en va prendre en otage un général au ministère de la Défense. Stratagème ultime pour accéder aux troupes auxquelles il s'adresse en un panégyrique, où il encense le Japon traditionnel et l'empereur. Face à l'hostilité déclarée des soldats, il s'isole avec ses disciples et se suicide par ses poukous. Le cercle est clos. Ses poukous, c'est s'ouvrir le ventre avec un strabo court pour laisser échapper l'âme forte, le ventre étant le séjour de l'être profond. La cérémonie se termine par décollation. Mishima repose en deux morceaux. 10 ans plus tard, Yourcenar, dans son essai Mishima ou la vision du vide, écrit « La mort de Mishima est l'une de ses œuvres et même la plus préparée de ses œuvres. » Savoir mourir est une révélation. En septembre 70, le Jimmy, le gosse de Seattle, fou de riff et de rhythm and blues, le dingue à la guitare entre les dents, le gaucher au toucher sans pareil, Jimi Hendrix, se noie dans l'alcool et les médocs et s'endort pour toujours à 27 ans, dans un hôtel du Swinging London, qui lui était une deuxième patrie. L'écorché vif, le grand escogriffe aux griffes d'argent, le magicien aux cheveux fous et aux yeux d'ange, le guitariste en nuage s'en va, et avec lui une vague idée de ce que la magie coûte. 4 années au firmament, et un icard brûlé au feu du succès et de l'expérience. Jimi Hendrix, We Got a Life Together.
For you to clap your hands one more time and sing along with us. Thank you.
Le sous-marin français Eurydice disparaît des sonars au large de Saint-Tropez le 4 mars 1970. Après quelques ronds dans l'eau, l'insubmersible disparaît corps et bien, et avec lui 57 sous-mariniers, non loin des plages à la mode sénéquier. Le café in du port varois, où les cadres parisiens et leur moitié emperlousés se vautrent sur des sièges improbables en estival apéro, dans des postures si chères aux frustrés de Claire Bretéché. Après la guerre, alors que sans vergogne aucune, la France s'asseyait à la table des vainqueurs, les U-boats allemands, ces fameux fers à vapeur au diesel bien teuton, ces tigres marins qui avaient semé la perte et l'effroi dans l'Atlantique, quand assiégé le royaume d'Albion comptait sur l'océan pour subsister. Les U-boats, donc, furent distribués, et le coq ragaillardi en hérita de quelques-uns. C'est sur ce modèle un rien nazi, mais amélioré. L'amélioration sert toujours à sortir d'arnières fangeuses et de dérives coupables. Sur ce modèle, disais-je, qu'une classe de bâtiments subaquatiques est fumiste au point et produite dans les arsenaux hexagonaux, fin 50, début 60. 26 navires de classe Daphné furent construits. Daphné, la belle nymphe dont Apollon était fou et qui, poursuivie par les ardeurs du dieu Ardeur, fut sauvée par son père qui la transforma en laurier rose, devenue dès lors l'emblème du poète. 26 sous-marins donc, dont 11 pour la Marine nationale, les autres allant sous-naviguer ailleurs. 2 semaines après le Jimmy, son ami, son amante d'un jour, sa sœur de scène, la Pearl d'Austin, Texas, le petit cochon Joplin, la Janice, s'en va à son tour d'une overdose d'héroïne. La toujours rebelle n'aura eu que 4 années pleines, faites de musique, de succès, d'alcool et de stupéfiants. Ses débuts furent à ce festival de Montreuil en juin 67, où Jimmy lui-même creva les tympans et l'âme des spectateurs, et où l'astéroïde Otis Redding donnera un de ses derniers concerts d'anthologie avant de s'envoler. Que seraient-ils donc tous devenus, ces pop stars, 5 ans plus tard, à l'heure du disco? Ils ont su partir en beauté, sans séparation, à ressorts commerciaux. La veille de sa mort, Janice enregistra cette si belle chanson, écrite par Chris Christopherson, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da,
Parmi ceux de la marine française, deux des sous-marins Daphné connurent une fin des plus tragiques. Le Minerve, baptisé du nom de la déesse vierge de la guerre. Le Minerve disparut en 68 au large de Toulon, perdu à jamais sans explication. Et son jumeau, l'Eurydice, 2 ans plus tard donc. Eurydice, la nymphette des bois, épouse d'Orphée, le poète et musicien, inventeur de la cithare, protégé d'Apollon, dont la voix enchantait hommes et animaux, et compagnon des Argonautes. Eurydice, mordu au talon par un serpent, mourut, laissant son Orphée inconsolable. Descendu aux enfers, il réussit de sa voix et de sa musique à endormir Cerbère et les terribles Erinies, pour finir par gagner des mains d'Hadès la vie de son amour, à condition que celle-ci le suivît hors du royaume des morts, sans qu'il se retournât ni lui parlât, avant que d'être de retour dans le monde des vivants. Tenté, le poète ne put y résister, et se retournant, alors qu'il n'était plus très loin de la surface, il vit son amour disparaître à jamais. Orphée inconsolable finit déchiqueté par les Bacchantes, qui ne supportaient pas qu'il restât fidèle à son aimé. Alors je vous le demande, qui a bien pu donner de tels noms à ces sous-marins? C'est à se demander s'il n'y a pas un esprit malin au royaume de la Royale. Daphné déjà. Une plante en pot pour un navire supposé passer sous l'eau, entre les mailles des filets. Et Eurydice, une nymphe des arbres sauvée des enfers par son amoureux de poète de Marie et retombée aussi sec au fond du gouffre. L'Eurydice coula de la même manière, sans beaucoup d'explications. Il fallait vendre les 15 autres unités, grand Dieu. Et Orphée pleura sur le rivage, des larmes belles, comme une pluie d'avril, pour les 50 et quelques marins disparus là-bas, dans les abîmes d'où nul n'est jamais revenu. Une autre idole, d'un autre âge pourtant, disparaît à l'automne, entre Toussaint et 11 novembre 1970. Le grand Charles, le chêne, le sauveur venu de nulle part, le double étoile en tire-bouchon, le gainage providentiel, le visionnaire oublié, le revenu de Baden-Baden, le général au nom circonstanciel, le président chevrotant, le grand résistant, le fil de l'épée, l'homme de Londres s'effondre à bout de patience. La France est orpheline, la France est veuve, triste, pour une part. Et d'autres en rigolent. Arathierry titre, bal tragique à Colombey, un mort. Il ne faut pas oublier que 10 jours plus tôt, 146 personnes étaient mortes dans l'incendie d'un signe en Isère. Du coup, le journal est interdit, et une semaine plus tard, Charlie Hebdo est lancé pour prendre le relais. Charles, lui, repose au cimetière de Colombey. En 1970, James Brown chante « Give it up and turn it loose » pour fermer les cercles et tourner en belle ronde. Bonsoir.
hand, stomp your feet. Clap your hand, stomp your feet. Clap your hand, stomp your feet. Clap, clap, clap your hand.